VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'ex-chef des rebelles du Soudan du Sud, Riek Machar, a quitté aujourd'hui Khartoum où il vit en exil depuis qu'il a fui Juba après de violents combats en Jié. Le chef de la rébellion dit se rendre en Afrique du Sud pour des examens médicaux et c'est la première apparition devant la presse de Riek Machar depuis le mois de juillet. L'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalinga, âgé de 49 ans, a été promu cardinal par le pape François. L'annonce a été faite dimanche lors de l'Angélus à la Cité du Vatican. Mgr Nzapalinga s'est félicité de cette nomination qu'il place sous le signe de la réconciliation en invitant les centrafricains de toute confession religieuse à œuvrer pour la paix, condition sine qua non du développement. Écoutons-le au micro de Félix Yepassis Zembrou.
C'est une mission que moi j'accueille dans l'humilité, dans la simplicité, car je ne suis pas digne de l'assumer. Je fais confiance à Dieu qui donne des grâces nécessaires pour me permettre de réaliser cette mission. Voilà pourquoi j'aurais besoin de mes frères, les évêques, j'aurais besoin des prêtres, j'aurais besoin des chrétiens, de tout homme, toute femme, de toute bonne volonté. Car j'ai toujours œuvré avec mes frères protestants, musulmans et autres religions pour l'avènement de la paix. Et c'est dans cette mission-là que je dois m'y insérer.
Monseigneur, cette nomination, vous la placez sous quel signe ?
Je place cette nomination sous le signe d'un retour à la paix, de la cohésion et surtout l'entente entre les religions. Religare et en latin, religion veut dire relier. Or, souvent, certains utilisent la religion pour diviser. Et nous pensons qu'il est temps pour que nous, hommes de Dieu, pasteurs, imams, prêtres, puissions nous lever comme un seul homme pour dire que nous devons être unis pour défendre la vie, pour annoncer un monde nouveau, où il y a la fraternité, unis parce que la paix est la condition sine qua non pour un développement, pour une croissance, et nous en avons besoin en Afrique, en Europe, de par le monde. Et pour nous, croyants, Jésus est venu annoncer un monde nouveau, annoncer cette paix.
À propos de paix, Monseigneur, quelles sont les chances de paix en Centrafrique avec les événements de ces derniers temps au kilomètre 5 et dans l'arrière-pays?
La chance de la paix dépend de Dieu. En même temps, cette chance de la paix dépend de nous, Centrafricains. Pourquoi ça dépend de Dieu? Parce qu'il est le créateur, le maître de tout. Et ça dépend de nous parce qu'il a confié toute l'humanité entre les mains de l'homme. À nous, Centrafricains, de nous asseoir, de dialoguer par la concertation pour prendre une option décisive en disant il est temps d'arrêter la guerre, il est temps d'arrêter les conflits, il est temps de se voir en face, il est temps de respecter, d'estimer l'autre, il est temps de collaborer, il est temps aussi de regarder dans la même direction. C'est la condition sine qua non pour que nous puissions demain parler d'une Centrafrique nouvelle. Sinon, nous allons de manière interminable continuer nos guerres. Et je pense que le moment est venu et je lance cet appel à tous les Centrafricains. Et puis, des patriotismes, des nationalismes, d'enterrer leur hache de guerre, de laisser leur cœur se désarmer pour que l'amour entre dedans, pour que la fraternité entre, pour que la paix y entre et qu'afin qu'ils puissent désarmer aussi leurs esprits pour comprendre, aimer, estimer aussi l'autre pour bâtir ensemble avec nos frères la nouvelle Centrafrique. Personne ne gagnera. Celui qui va gagner, c'est le peuple centrafricain qui gagnera cette guerre. Celui qui va perdre, c'est le peuple centrafricain. Si nous sommes centrafricains, nous devons dire nous avons tous perdu, nous avons tous gagné et nous avons intérêt à gagner. Il est temps de présenter un beau visage, un visage qui attire, un visage séduisant. Et ça dépend de tous les centrafricains qui m'écoutent et qui s'engageront résolument à enterrer leur hache de guerre.
Monseigneur Dieudonné Nzapalinga, archevêque de Bangui. De bonnes nouvelles sur le front économique pour le Congo-Brazzaville avec le lancement d'un programme visant à revaloriser l'agriculture et à réduire l'exode rural. Brazzaville a toutefois besoin de bailleurs de fonds pour le réaliser. On écoute le ministre d'État congolais chargé de l'agriculture, Henri Ndjombo, en visite de prospection aux États-Unis.
Il est question en 3 ans de mener frontalement des programmes en ce qui concerne l'agriculture, la pêche et l'élevage. C'est un programme de 2 milliards de dollars à peu près sur 3 ans qui consiste à encadrer les producteurs, à leur apporter les ressources dont ils ont besoin pour leurs exploitations, à promouvoir le secteur privé et surtout l'agro-business. L'État devra intervenir sur les infrastructures de base comme celles de stockage, comme l'irrigation, les pistes agricoles et ainsi de suite. Et les organismes opérationnels vont intervenir dans l'assistance des petits producteurs, dans l'accès au crédit, au mini-crédit et un crédit de proximité. La Banque mondiale va être accompagnée aussi par d'autres bailleurs et d'autres donateurs, comme le FIDA, les fonds arabes et bien d'autres, la Banque africaine de développement.
Henri Ndjobo, ministre d'État congolais en visite de travail à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les tensions s'accroissent entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, alliés et poids lourds du Moyen-Orient, qui n'hésitent plus à afficher publiquement leurs désaccords sur plusieurs dossiers régionaux, comme la Syrie. Ces divergences se sont publiquement affichées ces derniers jours avec le vote de l'Égypte à l'ONU samedi en faveur d'une résolution russe sur la Syrie, farouchement décrié par l'Arabie Saoudite. Le président russe Vladimir Poutine a refusé de venir en Syrie parler de la Syrie à Paris, car cela aurait été très embarrassant pour lui au moment où les bombardements russes s'intensifient sur Alep. Ce sont les propos du chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault. La présidence française avait fait savoir qu'une réunion de travail à cette occasion était possible à condition d'être uniquement consacrée à la Syrie. À l'origine, Vladimir Poutine devait venir à Paris pour inaugurer avec son homologue français, François Hollande, une exposition organisée par la Fondation Vuitton sur la collection du mécène russe Sergei Stoufkine, ainsi qu'une nouvelle cathédrale orthodoxe russe en pleine ville de Paris. Les forces pro-gouvernementales au Yémen ont reconquis un poste frontière avec l'Arabie Saoudite qui était aux mains des rebelles chiites houthis, selon des sources loyalistes. Ce mercredi, les rebelles houthis, fortement implantés dans le nord du pays, utilisent leur base pour lancer des attaques aux roquettes ou aux missiles contre l'Arabie Saoudite qui, à la tête d'une coalition arabe, mène depuis plus de 18 mois une campagne de frappes aériennes contre leur position au Yémen. Le conflit au Yémen a fait plus de 6 800 morts, dont deux tiers de civils, depuis l'intervention de la coalition, selon l'ONU.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Présidentielle américaine, le candidat républicain Donald Trump continue de faire face au tollé provoqué par ses propos dégradants au sujet des femmes. Timothée Donangmaï.
Trump et ses partisans ne décollèrent pas après la décision du président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, de ne pas battre campagne pour lui, mais plutôt d'aider le Parti républicain à maintenir sa majorité à la Chambre. Toutefois, leur grand problème se situe ailleurs, dans la vive controverse déclenchée par cette vidéo de 2005 dans laquelle le candidat républicain tient des propos dégradants au sujet des femmes. Sans distinction d'opinion politique, ces dernières ont décidé par milliers de faire part de leur propre expérience de victime d'attaques sexuelles. C'est le cas de Jennifer McGraw, une femme de Cleveland à l'Ohio, qui a décrit sur un blog dimanche les abus qu'elle a subis en tant qu'enfant et le viol dont elle a été victime par la suite. Les propos décriés de Trump suscitent un débat national sur les violences sexuelles et c'est quelque chose de très puissant, explique Delilah Romburg, présidente du Centre national des ressources sur les violences sexuelles basé à Harrisburg en Pennsylvanie. Ironiquement, les propos du candidat républicain ont poussé les femmes à se lever et s'exprimer. Note pour sa part Alexa McGriffith, jeune femme de 28 ans, qui a elle aussi écrit sur Internet au sujet de son expérience de survivante d'un viol. La furie féminine contre la vidéo de 2005 risque de coûter à Donald Trump les voix d'une importante frange de l'électorat au moment où les embûches semblent se multiplier sur son chemin vers la Maison-Blanche.
Les avocats de Salah Abdeslam, le suspect clé des attentats de Paris du 13 novembre 2015, renoncent à défendre leur client. C'est ce qu'ils ont annoncé dans un entretien à la chaîne française BFM TV ce mercredi. On a décidé l'un et l'autre de renoncer à cette défense. Nous avons la conviction qu'il ne s'exprimera pas et qu'il va appliquer le droit au silence, a expliqué l'avocat français Franck Berton aux côtés de son confrère belge Sven Marie. Et le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire dans l'enquête sur le braquage à Paris début octobre de la star américaine de la télé-réalité Kim Kardashian. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la vedette ultra-médiatisée de 35 ans s'était fait braquer par cinq hommes dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris où elle était venue assister à la Fashion Week. Aucun suspect n'a été pour le moment interpellé, mais plusieurs ADN ont été retrouvés dans l'appartement de la star et sont actuellement en cours d'exploitation selon des sources proches de l'enquête. Jean-Roger Billon à ce micro. Fin de ce journal. Le prochain vous sera présenté par Henri Francis. C'est dans exactement 50 minutes. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.